Bonjour à tous, nous sommes en somme après le recommencement de l'étude des parachutes hebdomadaires. Nous en sommes déjà à la paracha noire. Évidemment, beaucoup de thèmes à développer dans ces premières parachutes, notamment avec le Rav Cherki. Bonjour.
Bonjour.
On va s'intéresser plutôt vers la fin de la paracha, à un moment donné où apparaît la famille d'Abraham, famille de Terach, son père, et où finalement, là, on voit déjà se prépositionner. Le devenir des options qui s'offrent à l'humanité.
Absolument. On voit que l'apparition de la famille d'Abraham, la famille hébraïque, se fait sur l'arrière-plan de la tour de Babel, et donc de l'échec d'unifier l'humanité de manière artificielle. Et c'est à partir de cet échec de la tour de Babel qu'apparaît la famille d'Abraham. Or, cette famille, justement, c'est la première famille hébraïque. Ils sont appelés les Hébreux puisqu'ils sont les descendants de Hébert, qui est l'ancêtre éponyme de cette famille. Et ce qui est surprenant, c'est que leur première apparition sur la scène de la Torah, c'est d'une famille en exil. Ce sont des Hébreux qui ne sont pas chez eux. Et d'où est-ce qu'ils venaient, ces Hébreux qui n'étaient pas chez eux? Ils n'étaient pas d'Ur Kasdim, à Ur Kasdim, c'est les Chaldéens. Eh bien, si on se réfère au chapitre 40 du livre de Béréchit, au verset 15, on voit que Joseph, quand il parle à un dignitaire égyptien, dit « Voilà, j'ai été enlevé du pays des Hébreux. » Et donc, la terre de Canaan était connue chez les Égyptiens comme étant la terre ancienne des Hébreux, de ceux de l'époque d'avant Abraham. Et ce que raconte la Torah, ben, c'est comment une famille en exil va en sortir. Alors par des allusions, mais des allusions très fortes, la Torah nous raconte qu'il y a eu une persécution contre les Hébreux à Ur Kasdim. Et la Torah nous parle de quatre personnages essentiels dans cette famille, le père de la famille, Terach, et puis ses trois fils, Abraham, Nahor et Haran. Et on voit qu'à la suite de la persécution à Ur Kasdim, Terach prend l'initiative d'emmener la famille dans le pays de Canaan. C'est-à-dire de revenir à la terre des ancêtres pour se réfugier. Si on peut dire que c'est
Le père,
l'archétype,
alors.
oui, c'est le père qui est l'archétype du sioniste laïque qui prend une décision absolument pas pour des raisons religieuses, c'est la décision de revenir à la terre ancestrale. Et c'est comme ça que ça commence. Et par rapport à ce mouvement du père, alors il y a trois réactions possibles, celle de Abraham, celle de Nahor, celle de Haran. Celle de Nahor est que il opte pour l'araméisme, c'est-à-dire une sorte d'hébraïsme cosmopolitique, pardon, pour une forme d'hébraïsme cosmopolite. Il voudrait donc fonder sa communauté hébraïque en exil. Et il se sent très bien là-bas. C'est probablement lui d'ailleurs qui a interrompu le trajet de Terach vers la terre promise. Il a dû lui dire, écoute papa,
On est très bien là.
Non seulement on est très bien là, mais n'oublie pas qu'en Canaan, maintenant il y a des Cananéens et ça va faire des conflits, c'est pas comme avant. Alors il vaut mieux devenir araméen et diffuser l'enseignement de Hébert. Et puis vous avez Haran, qui est la victime même de la Shoah, qui représente un tiers de sa génération qui disparaît dans la persécution d'Ur Kasdim, dans les crématoires. Et finalement, Abraham, qui au départ est tenté par l'aramaïsme, d'ailleurs il s'appelle au début Abraham, c'est-à-dire père d'Aram, et qui finalement entend une voix divine qui va l'orienter vers la terre de Canaan, mais pour des raisons idéales, c'est-à-dire de devenir une bénédiction pour toutes les familles de la terre. On pourrait dire qu'Abraham est le premier sioniste religieux d'une certaine manière, si j'anticipe. Et donc on voit que dès l'origine de la famille d'Israël, vous avez les quatre options, les quatre manières d'être Israël qui apparaissent dès le départ. Ce qui va créer évidemment des tensions dans l'élaboration de cette identité.
Mais qu'est-ce qui se passe avec Terach? Parce que finalement, le père, finalement, il y a les Midrashim qui disent qu'il était marchand d'idoles, etc. Est-ce que pourquoi lui n'a
Il
pas.
était non seulement marchand d'idoles, il était producteur d'idoles. Alors imaginez ce que ça veut dire pour les nations de l'époque, parce que si on a un magasin d'idoles, c'est qu'il y a des gens qui achètent. Et donc, il était fabricant d'idéologie, si vous voulez. Et les nations achetaient. C'est-à-dire, si on est capable de considérer qu'un hébreu peut produire des dieux, c'est probablement que l'hébreu lui-même est divinisé. Et ça représente déjà cette tendance qu'on peut trouver chez les nations à diviniser un hébreu.
Vous avez des
Mais,
exemples?
oui, nous avons des exemples, vous pouvez y réfléchir tout seul. Il est intéressant de voir que ça n'empêche pas également de persécuter l'hébreu en question. C'est-à-dire finalement, Abraham est jeté dans la fournaise. peut-être par réaction, si vous voulez, œdipienne, on refuse celui qui représente l'autorité morale, celui qui gêne un peu pour la vie laïque. Mais donc Térard n'est pas un juif religieux, mais il est certainement ressenti par les nations comme étant porteur d'une étincelle divine.
Et est-ce que c'est Nahor qui est jeté dans la fournaise
ou Non, c'est Haran.
C'est Haran. Mais lui, parce qu'il avait dit qu'Abraham en était sorti.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il était hésitant. Il portait en lui une hésitation. Est-ce qu'il faut adopter l'option de Nahor ou est-ce qu'il faut adopter l'option d'Abraham? Et c'est cette hésitation à un moment d'un tournant historique qui peut être fatale. Oui.
Parce que ce midrash est terrible, où on se dit, comme il voit que finalement Abraham s'en sort, il se dit, voilà, et c'est là où il est brûlé.
Il y a des rescapés chez Haran. C'est-à-dire, Haran a 3 enfants, quand même, qui sont les rescapés de cette Shoah, qui sont Sarah, la femme d'Abraham, Milka, la femme de Nahor, et Lot. Lot veut dire un voile en hébreu. Et c'est lui qui est voilé et qui porte en lui les étincelles messianiques. C'est-à-dire, c'est lui qui va donner naissance à Ruth la Moabite, à Naama la Monite, qui vont faire partie de la famille messianique. Et donc, on peut dire que dans cette hésitation, il y a quand même ce rôle d'être à la frontière entre Israël et les nations, qui va permettre justement d'introduire l'élément universel.
Merci beaucoup, Rav Cherki, pour ces commentaires sur notre paracha de la semaine, Noach. Merci à vous.